Bonjour à tous. Bienvenue dans la quatrième partie de notre série d'émissions consacrée à la naissance de l'idéologie du pouvoir, en compagnie d'une psychanalyste, Michèle Bompard-Porte. Résumé des épisodes précédents. Au fil de notre entretien, nous sommes arrivés au moment où les hommes, jusqu'ici confiants dans les ressources d'une nature prodigue, se tournent vers la maîtrise de cette nature et se font agriculteurs. La dynamique des groupes passe du type fraternel au type matriarcal, oligarchique donc, pendant que, dans le même mouvement, on ne reconnaît plus l'altérité des sexes, et la grande déesse fait son apparition. Les hommes se font donc cultivateurs et éleveurs, et perdent leur liberté si on veut. Vous le savez bien, quand on promène son chien, on se retrouve aussi au bout de la laisse.
Alors il y a quelque chose qui est très très rigolo, c'était en fait ça qui m'avait le plus marqué quand j'avais commencé de travailler avec Cova.
Michèle Bompard-Porte.
C'est que ces gens qui deviennent agriculteurs perdent complètement leurs connaissances et leurs compétences quant au reste de l'alimentation. Et ça, ça laisse stupéfait. Ils ne mangent plus que les renouées, l'engrain, et, enfin voilà, quelques céréales. Et puis les gros bestiaux. Très peu de... Ils avaient tous les petits insectes, les poissons, les viandes, tu vois. Ils ne fonctionnent plus qu'avec ces deux-là. Et alors, mais attends, ils sont vraiment fous. Ça s'appelle se mettre au travail, enfin voilà, sans aucune nécessité. Et là, j'ai juste pensé que, toujours par analogie, en fait, que ça devait être une manière de s'en croire. Forcément, hein, comme ils sont sur la position d'avoir une grande déesse, donc ils sont quand même dans la toute-puissance. À la fois, ils sont révérents devant la grande déesse, mais à la fois, ils s'en croient. Ils se prennent pour tout-puissants, relativement quand même, puisqu'ils sont les enfants de la grande déesse. Et surtout, eu égard aux autres. On est entré dans le régime du mépris, si vous voulez. Ah oui, j'ai pas dit phallique châtrée, mais bon. Si on ne reconnaît pas les autres comme des semblables, avec l'altérité des sexes, la première étape antérieure, c'est... En avoir ou pas, comme disait Hemingway. C'est la division du monde en phalliques châtrées. Et donc les phalliques, ils ont la puissance, et les châtrées, ils sont méprisables. Et c'est ce régime qu'on appelle clivé qu'on va avoir jusqu'à la fin des temps, tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, ah oui, j'ai oublié de dire phalliques châtrées. C'est parce que la régression, la grandesse est toute puissante, mais les fils, par participation, ils sont aussi du côté de la toute-puissance. Mais s'ils sont du côté de la toute-puissance, comme évidemment, c'est pas vrai que c'est une imaginaire, d'un côté, eh ben, il va y en avoir qui sont pas puissants. Pour indiquer qu'eux sont puissants, il faut quand même avoir le contre-type. Donc c'est cette organisation phallique-châtrée qui va prévaloir, quoi. Donc cette position phallique-châtrée, c'est il faut avoir du mépris quelque part. Et donc j'ai supposé ça à cause de toutes les cultures ultérieures, que ces gens qui commencent à faire un peu d'agriculture ont le mépris le plus absolu pour ce qu'ils étaient avant, ou pour leurs ancêtres, ou pour leurs voisins. Et que ce mépris se marque par « ben non, nous, on ne va plus manger toutes ces choses ». Et je me suis simplement inspirée des Égyptiens et puis de tous les groupes culturels ultérieurs. Dès qu'il y a un régime alimentaire spécifique, on est absolument fiers, au-delà de tout, de ce « moi, je ne mange pas de je ne sais pas quoi tel jour ». Moi, j'obéis à la cache-route. Moi, je mange pas de porc. Voilà, ça rend les gens absolument infatués et méprisants à l'endroit de tous les autres. Donc, j'ai supposé qu'ils avaient perdu leurs compétences alimentaires. En fait, comme ça, pour des raisons de nouveau psychiques, de conneries. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, de bêtises, d'infatuation narcissique. Voilà, nous, on est meilleurs que les autres et on va les mépriser. Mais du coup, on perd toutes nos connaissances. Vous voyez? Alors, le point, c'est que, quand même, c'est un fait étrange, c'est que leur agriculture, elle est inénarrablement improductive. Voilà, il faut qu'ils gardent presque la moitié, quoi, de ce qu'ils récoltent, puis qu'ils le ressèment. Mais, enfin, voilà, on passe d'une période d'abondance, qui est le paléolithique, à une période de boulot et de pénurie relative. Donc, c'est... D'un sens, quand on a changé de position psychique, quand on n'est plus dans un rapport, je dirais, de relative confiance à son environnement, mais qu'on s'est mis dans la position de vouloir le dominer, c'est clair qu'il faut qu'on ait des réserves sous le coude, parce qu'on ne fait plus confiance. Mais vous voyez, le progrès, à mon avis, n'est que visible du point de vue d'une position psychique régressée, où on va, en effet, tenir comme à la prunelle de ses yeux à ce qu'on thésaurise et à ce qu'on maîtrise. Mais c'est parce qu'on a perdu la culture antérieure. Je pense que le facteur élaboration déficiente du narcissisme et conviction de toute puissance, où que ça soit placé, c'est ça notre croix à nous autres humains.
Le narcissisme, c'est l'amour de soi. Le narcissisme équilibré est nécessaire à notre développement psychique harmonieux. L'amour de soi est une composante essentielle de notre personnalité. Mais les troubles et les blessures narcissiques peuvent mener à la dépression, à la désorganisation psychique ou au sentiment de toute puissance.
C'est là que nous sommes le plus mal outillés pour vivre. C'est-à-dire, toute infatuation narcissique est dangereuse pour celui qui la vit et pour son entourage, et gravement dangereuse. Et on a beaucoup de mal à réguler correctement ces difficultés narcissiques. En fait, ça dépend de la manière dont les enfants sont éduqués. Et on a l'impression que nos cultures ne sont pas très bonnes pour éduquer convenablement les enfants, de sorte qu'ils deviennent des adultes et qu'ils ne restent pas dans des histoires d'infatuation narcissique à l'endroit, à l'envers ou sur les côtés, que ce soit être violent, que ce soit n'importe quoi. Tout ça, c'est toujours sur se croire plus que ce qu'on est, ou croire que l'autre est plus que ce qu'il est, et ça donne tout le temps des catastrophes. Et pour moi, c'est en effet vraiment un facteur complètement essentiel. Quand on suit maintenant, si on prend la suite de l'histoire, on va avoir des moments où les gens récupèrent de devenir adultes dans les groupes où ils vivent, et tout ça se passe très bien, ça dure même des millénaires, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la ressource chez les humains hein, pour devenir adultes, il ne faut pas croire, on a de la ressource, mais il y a aussi cet indéfini malheur de l'inélaboration du narcissisme qui nous rend des barbares les uns pour les autres et qui fait des situations souvent tragiques. Enfin, tragiques non, dramatiques, puisque c'est entre humains. Que l'histoire montre, c'est que pendant très 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 longtemps, les gens ont réussi à vivre sans avoir de fonction d'autorité. Donc on est avec ces premiers agriculteurs sont en état de fonctionnement vers 9-8 000, et puis il y a une diffusion absolument sidérante partout quoi. Ça part vers l'Afrique, ça part vers l'Europe, ça part vers l'Iran, enfin voilà. Et juste, il y a un petit groupe de résistants dont on parlera peut-être tout à l'heure, juste à côté de Mossoul, la pauvre ville. Et ce qui est très très frappant, c'est qu'à un moment, ces groupes qui étaient devenus plutôt avec un peu de fonction d'autorité, plutôt avec beaucoup d'armement, plutôt virilisés, comme disent les archéologues, érigeant des maisons à angle, au lieu qu'auparavant ils avaient des maisons rondes enterrées, et surtout la prégnance de l'armement qui fait penser qu'on est dans des groupes qui sont restés, disons, de type patriarcal, comme on a dit au début. Au bout d'un moment, il y a une culture qui se développe de la Méditerranée jusqu'aux confins, à l'autre bout de la Mésopotamie vers l'Iran, qui s'appelle la culture de Halaf, et qui récupère, semble-t-il, absolument un fonctionnement démocratique. Alors je vais vous raconter pourquoi. Il semble que cette culture-là, un millénaire durant, s'est régulée en n'agrandissant pas trop les groupes. C'est-à-dire, dès qu'un groupe devient un peu grand, hop, on va fabriquer un autre groupe ailleurs. Et voilà, ça va complètement dans votre sens. Dans ce groupe-là, qui est très, très raffiné, hein, on va peut-être en dire un petit mot, ben, le régime démocratique est retrouvé. Mais, en effet, avec un système de régulation de la dimension des villages. Et c'est vrai que, conceptuellement, un très grand groupe en démocratie directe, ça a l'air d'être un peu difficile à faire fonctionner. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a des exemples, d'ailleurs. Du paléolithique au néolithique, ça s'accompagne de manière absolument évidente. Donc, c'est les archéologues, il n'y a pas besoin de moi, hein, qui disent une virilisation de la société, comme ils disent. Donc, avec ce truc de surarmement qui est apparemment plutôt du côté masculin. Et effectivement, apparemment, une perte de l'altérité des sexes est probablement, de manière à peu près évidente, on commence à soumettre les femmes, quoi. À cause des armes, à cause des maisons nouvelles qui sont érigées façon à angle et disent façon masculin, je pense qu'ils ont assez raison. Enfin, il y a toute une série d'indices qui laissent à penser que ce système à grande déesse, c'est le seul dommagement que les femmes aient, d'une certaine manière, elles ont des grandes déesses, mais elles doivent être quand même dans une position de soumission. Et on peut penser aussi que, on n'en a pas parlé assez, ce groupe des jeunes hommes qui prend le pouvoir en même temps que la déesse mère. Dans le bouquin, j'explicite que, effectivement, pénurie sexuelle, on passe au sport, donc on va à la chasse, au taureau, parce qu'on a des représentations comme ça avec un taureau divinisé gigantesque et des petits hommes autour qui le chassent. N'empêche que les petits hommes qui chassent le taureau, ils se prennent pour le taureau aussi. Hein, donc, d'un côté, vous avez raison, il y a le fantasme de nourrir. De l'autre côté, il y a un certain fantasme de toute puissance en étant fils de la déesse via le taureau et par suite surarmement et probablement relative soumission des personnes âgées, des femmes, sauf sans doute quelques vieilles mères qui fonctionnent. Ça complète un peu le tableau, quoi. Mais ça va tout à fait aussi dans votre sens. Effectivement, il y a une sorte de prise de... une sorte de, ben voilà, de délire de toute puissance qui commence de fonctionner. C'est-à-dire, vers 8000, 7500, vous avez domestication assez généralisée. Tous les auteurs qui ont travaillé la question sont d'accord pour dire que c'est exactement comme dans le cas de l'agriculture. Ce n'est pas du tout une question de besoin de nourriture. C'est-à-dire, les domestications, c'est pour domestiquer. C'est purement et simplement pour domestiquer. Et c'est aucunement pour changer le régime alimentaire dans un premier temps.
Mais c'est aussi une promesse, avoir une chèvre. C'est la promesse de pouvoir avoir du lait immédiatement et de la viande demain.
Voilà, et on est passé dans le régime, c'est toujours ce qu'on dit, on est passé dans le régime où on thésaurise. On a changé de régime psychique, et donc on a, voilà, il faut y aller comme ça. Et vous avez absolument raison, et ça vaut tout le temps, la séduction pour des groupes. Vous voyez, c'est vous qui avez dit, c'est du boulot la liberté. Eh bien, les chasseurs-cueilleurs qui voient arriver les autres, voilà, nous on bosse pour être libres. Ils ne se rendent pas compte que les autres, ils sont soumis aux chèvres autant que les chèvres leur sont soumis. Voilà. Et simplement, il y a un effet de diffusion comme ça, par la séduction qui est énorme. Et séduction par régression, et parce que c'est fatigant d'être libre. Voilà, c'est clair et net. C'est ce processus-là, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, on le voit, on voit apparaître comment ça peut... Comment on est mal foutu, comment on est prêt à régresser, prêt à se jeter dans la gueule du loup à tous les voyages. Voilà, et donc, en effet, le néolithique diffuse à une vitesse considérable. Et alors, on dit, pour arriver jusqu'en Bretagne, quoi, ils partent là de ce petit coin qu'on a dit, et puis ça avance. Et donc, c'est un village par génération qui s'avance comme ça. Et donc, ça atterrit ici, je ne sais plus vers quelle date,
Ça arrive ici vers 4000, le néolithique. Je ne sais pas les dates exactes par ici. Enfin voilà, donc ensuite, ils remontent le Danube, la plaine du Danube, et puis etc. Et ils se retrouvent jusqu'en Bretagne. Voilà. Et ils arrivent, ils séduisent tout le monde.
Dans son ouvrage « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture », Jacques Covin, archéologue, directeur au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient, écrit « Imaginons par contre l'effet que dut faire sur des chasseurs immémoriaux l'arrivée de groupes humains, même clairsemés, poussant devant eux des chèvres et des moutons dociles, où l'exotisme des espèces s'ajoutait pour surprendre à la maîtrise des bergers. »
Et des chasseurs-cueilleurs, il reste juste ceux de Mossoul. Juste à côté de Mossoul. Non, j'exagère, en fait. Donc, il y a un groupe qui est bien repéré. Donc, Mossoul, vous voyez, c'est au nord, quoi, par rapport aux régions où on était. Qui n'adopte pas la déesse, qui garde des figures d'oiseaux relativement petits, quoi, comme objet, on ne sait pas bien, enfin, emblème, et qui persistent dans leur position paléolithique fort tard. J'ai émis l'hypothèse qu'éventuellement, la culture de Halaf, vu à quoi elle ressemble, procédait de ces gens-là. Je ne suis pas bien sûr de moi. Mais oui, je voulais quand même citer, parce que le néolithique, il y a le nôtre, et puis il y a d'autres néolithiques qui se construisent, sur lesquels je n'ai pas travaillé, donc je n'en dirai rien. Sauf que quand même, je sais que les Japonais ont bien connu l'existence du néolithique et ont refusé d'y aller pendant plusieurs millénaires. Ils avaient de la poterie, mais ils se refusaient à passer agriculteur. C'est des héros. Voilà. Enfin, la séduction porte aussi sur, j'insiste, psychiquement, régresser, c'est confortable. Il ne faut pas croire que tous les groupes culturels qu'on connaît, plus ou moins totalitaires, existent par l'opération de Saint-Esprit. Ils existent parce que ça fait plaisir de roupiller, de croire qu'on est protégé, même si on ne l'est pas, et de redevenir nourrisson, enfant petit, etc., de ne pas faire l'effort de tenir debout, qui est effectivement très fatigant. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire, c'est comme si les chèvres qui sont là et qu'on domine, elles sont vues comme une espèce de protection. Elles vous protègent à condition que vous vous soumettiez à elles et que vous vous soumettiez au groupe qui fait que, etc. Donc vous changez de régime psychique. Mais n'empêche que ça a une puissance de séduction énorme. Oui, je pense. Mais c'est une puissance de séduction qui est du côté régression. C'est pour ça que tout ça est quand même relativement... Alors on peut dire tragique parce que ça, là pour le coup, ça dépend de comment on est constitué psychiquement, nous. Et ça, on n'y peut rien. Simplement, si on savait, si c'était un peu diffusé, peut-être que les gens feraient un peu plus gaffe à où ils mettent le doigt quand ils mettent le doigt quelque part. Les gens ont toujours en même temps la notion qu'ils pourraient être libres. Et d'ailleurs, je pense que souvent, par exemple, dans notre culture actuelle ici, hein, on a une sorte de totalitarisme mou qui arrive par en haut, qui est très général. N'empêche que vous avez plein d'endroits où les gens tiennent dans des registres d'échanges qui sont très démocratiques. Bon, je vois, les équipes avec lesquelles je travaille, l'hôpital, etc., les gens tiennent en n'ayant pas de conviction ni même de croyance quant à la pertinence de leur hiérarchie. Et ils tiennent en ayant des échanges entre vraisemblables. Vrai, plus vraisemblable. Et ça, c'est des adultes psychiques. Et ça fait... Enfin, je crois que c'est aussi extrêmement prégnant chez chacun d'entre nous. Et je suis tout à fait admirative des compétences qu'ont les gens ici à maintenir un échange de niveau démocratique, alors que la puissance de feu, si j'ose dire, des hiérarchies... diverses et variées, de management et que sais-je, est tout de même colossale. Donc, c'est quand même plus compliqué, c'est-à-dire l'adulte psychique, il est là et il a une sacrée... C'est-à-dire, si vous voulez, il a une sacrée tenue, parce que, je veux dire, quand on va prendre la suite de l'histoire et la manière dont groupes élitaires se maintiennent au pouvoir, il faut quand même qu'ils mettent le paquet d'une manière démentielle pour arriver à se maintenir au pouvoir. Ce qui veut dire que les gens, ils ont la capacité de... et l'envie de changer de régime. Et d'ailleurs, c'est très très rigolo, parce que dans toute l'histoire babylonienne, et déjà, on n'a pas dit pour le néolithique, mais ça vaut déjà pour le néolithique, quand ils en ont marre, ils foutent le camp. Nomadisés. Et tous les empires mésopotamiens ont du souci avec ça, parce que quand ils ont trop pressuré les gens foutent le camp nomadisés. Et quand ils sont assez nombreux, hop, ils retournent, ils rasent les empires dont ils sont partis. Donc ça veut dire qu'il y a une ténacité aussi de être adulte, libre, de vivre avec des semblables et de ne pas se faire persécuter ni soumettre. Je crois que c'est aussi prégnant que la puissance de la régression est forte aussi. Quoi. Il y a les deux. C'est pas si tragique que ça, même si ça l'est quand même. Donc on en était à notre culture de Halaf qui était démocratique, qui avait diffusé sur toute la largeur depuis la Méditerranée jusqu'à l'Iran et de haut en bas vers Mossoul à peu près, mais pas la basse Mésopotamie. La basse Mésopotamie est une autre culture qui s'appelle Obeid. Ça s'écrit O-B-E-I-D.
La culture dite de Halaf, ou la période de Halaf, était implantée dans le nord de la Mésopotamie, donc la Turquie proche de la Méditerranée, la Syrie et le nord de l'Irak. À cette période, on cultivait des céréales et on pratiquait l'élevage. Puis c'est une phase de transition avec la culture d'Obeid qui s'étend sur toute la Mésopotamie et même plus, jusqu'à environ 3700 avant notre ère. La période d'Obeid se caractérise par une intensification des échanges commerciaux, par le développement d'une architecture religieuse et par l'élargissement des communautés villageoises. Comme on le verra plus tard, c'est dans le site de l'ancienne ville d'Eridu, où ont eu lieu de nombreuses fouilles archéologiques, que se situent les grandes phases de la période de l'Obeid.
Et c'est pas très clair la raison pour laquelle la culture de Halaf, donc démocratique, j'ai pas dit, ils sont absolument marrants, ils ont des petites, si j'avais les bouquins, je les montrerais, ils ont des petites sculptures qui sont... mais humoristique, c'est formidable. La grande déesse, elle est devenue un petit machin humoristique. Visiblement, ça les persécute plus, quoi. Ils sont sur une vraiment haute position psychique. Ils sont très, très bons. Toutes leurs poteries sont considérées très, très, très raffinées. Et voilà, il n'y a pas d'hierarchie. Enfin bon. Et ça dure à peu près 1000 ans. Et donc là, on est... Attends, on va regarder les dates. Je vais pas me tromper. À peu près 6 000, 5 000, enfin, à la louche, hein. je suis pas archéologue, je vais pas... voilà. Donc, oui, la question déluge qu'on a déjà commencé d'évoquer, elle est un petit peu compliquée parce qu'on a affaire à des phénomènes réels, naturels, qui bouleversent la culture des gens, et puis on a affaire à l'exploitation de ces phénomènes naturels, avec en plus une complication qui est que un premier épisode, qu'on va dire inondation pour le moment, a pour conséquence l'apparition, a pour suite l'apparition de la culture urbaine. Mais d'autres figures d'inondation sont corrélatives de l'apparition des mythes. Tout ça étant mélangé, évidemment, avec une évolution politique, puisque ça, quand même, ça se passe sur un laps de temps important. Donc tout ça est un petit peu compliqué à bien piger. Mais le résultat fondamental qu'on peut peut-être dire d'emblée est le suivant. Un, modifier l'économie, enfin la dynamique des cultures qui existaient. Deux, quand la culture est devenue relativement hiérarchique, les événements réels donnent lieu à la création d'un discours idéologique dans lequel les événements réels sont devenus l'arme des élites pour terroriser les populations.
Merci à Michel Bompard-Porte et merci à Yves-Marie Bouillon pour la préparation de cette émission. Dans la cinquième partie de notre série consacrée à la naissance de l'idéologie du pouvoir, vous l'avez compris, nous allons aborder le déluge. À bientôt.